Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse résumait des épisodes de la semaine précédente. Un mystérieux cheval de bois a surgi devant les remparts de Troie. Cassandre assure qu'il s'agit d'un piège et elle se met à avoir des visions cauchemardesques de la destruction de Troie. Mais personne ne la croit. Grâce à ce cheval en bois dans lequel les Grecs s'étaient dissimulés, Troie a été prise. La ruse d'Ulysse a réussi et la guerre de Troie s'est finie sur la victoire des Grecs et le massacre des Troyens. Ulysse a repris la mer pour rentrer chez lui. Lors de leur première escale, ces hommes ont pillé une ville et se sont enivrés. Mais ils ont été mis en fuite par les habitants. Plus de 70 d'entre eux sont morts. Maintenant, ils sont pris dans une tempête. Le soleil se lève à peine quand Pénélope se réveille. Elle se glisse sans bruit hors du palais pour gagner le rivage. Chaque jour, depuis plus de 10 ans, l'épouse d'Ulysse commence sa journée en scrutant l'océan. Elle veut être la première à voir la voile triomphante de son navire apparaître à l'horizon. Plus de 4000 fois, elle a accueilli le jour au bord de cette falaise. Elle aime ce moment où Aurore, aux doigts de rose, illumine chaque caillou, chaque brin d'herbe, d'une lueur enchantée. Elle aime Ithaque, l'île dont Ulysse lui a fait cadeau. Les cyprès verts, les genêts jaunes en fleurs, les touffes d'herbe odorantes, tout résonne à son cœur. Son amour pour la terre natale de son mari, perdu, se confond avec l'amour qu'elle lui porte. Elle fixe la mer jusqu'à ce que les reflets du soleil sur les vagues lui brûlent les yeux. Alors elle laisse couler ses larmes et reprend le chemin du palais. Ce matin-là, l'attitude hostile de son fils Télémaque à son égard la préoccupe. Elle est heureuse d'apercevoir Mentor sur les marches du palais. En partant, Ulysse avait demandé à Mentor de veiller sur son fils. Mentor est grand et fort. De ses bras noueux comme de la vigne se dégage une puissance rassurante. Enfoui derrière une barbe en broussailles, un sourire fleurit qui révèle la bonté de son cœur. Ce vieil ami d'Ulysse a pris sa mission très au sérieux, servant à Télémaque de père de substitution. « Mentor, » murmure Pénélope, « oh, comme je suis heureuse de te croiser de si bon matin. Je suis très inquiète de l'attitude de Télémaque. » Mentor lui répond, « Je m'en doutais, Pénélope. C'est la raison pour laquelle je suis venue t'attendre. Télémaque vient d'avoir 12 ans. Il a en lui la fougue de la jeunesse et le caractère volontaire d'Ulysse. Mais l'absence de son père lui pèse terriblement. C'est normal que cela génère quelques conflits avec toi. » La reine secoue la tête. « Non, non, Mentor, son insolence n'est pas normale. Hier encore, il est entré furieux dans ma chambre en criant « Je ne supporte plus les goujats qui prétendent se marier avec toi et ont envahi notre maison. Donne-moi les commandes du palais. » La voix de Pénélope se brise au souvenir de la scène qu'elle n'arrive plus à raconter. Elle la revit comme une gifle. J'ai crié, « Le maître de ce palais, ce n'est pas toi, Télémaque, c'est Ulysse, ton père. » Et sais-tu ce qu'il m'a répondu ? « Un père ? Quel père ? Je n'ai pas de père. En ai-je jamais eu un ?» Et il a tourné les talons. Mentor sait combien la douleur de Pénélope est vive. Dans l'île d'Ithaque, elle seule entretient vivant le souvenir du roi Ulysse. Car peu à peu, les habitants l'ont effacé de leur esprit. Comme si elle suivait la pensée de Mentor, Pénélope soupire. Nous vivons désormais sur l'île de l'oubli. Je ne peux pas laisser son propre fils gagner par cet oubli. Que pouvons-nous faire ? Elle, si forte d'habitude, semble perdue. Mentor est ému. Il lui promet. « Je vais arranger les choses, ma reine. » Télémaque s'entraîne à tirer à l'arc dans un verger lorsque Mentor arrive. Le jeune garçon le salue joyeusement. Il adore Mentor, qui le lui rend bien. Le barbu s'assied sur une pierre et regarde en silence Télémaque décocher sa flèche. Celle-ci atteint un oiseau mort qui pend au bout d'une ficelle accrochée à un poirier sauvage. « Tu as vu ?» crie fièrement Télémaque. « Je l'ai eu !» Mentor répond négligemment. « Bravo, tu es presque aussi fort que ton père, sauf que lui aurait atteint un oiseau en plein vol. » Aussitôt, le sourire disparaît du visage de Télémaque et une moue de colère apparaît. « Ah, tu me casses les oreilles avec les exploits de mon père. Tu me parles de qui, au juste ? D'un fantôme ? D'un courant d'air ? Moi, mon père, je ne l'ai jamais vu. » Sans s'énerver, Mentor s'approche du poirier. « Tu vois cet arbre ? Laerte, le père de ton père, le lui a offert lorsqu'il avait ton âge. » Quand il a quitté Ithaque, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. « Et toi, maintenant, c'est toujours vers cet arbre que tu viens, je le sais, pour calmer tes chagrins, tes colères. Vrai ou faux ?» En silence, Télémaque fait oui de la tête. « Eh bien, c'est ainsi que ton père veille sur toi, même en son absence. » Télémaque prend une petite voix. « En tout cas, il ne m'aime pas. Il ne s'intéresse pas à moi, puisque c'est toi qui m'as élevé. » Mentor plante ses yeux dans ceux du garçon. « Ne répète jamais cela devant moi. Jamais. Ton père n'a pas choisi cet exil. Il a été obligé de partir. Il a couru 1000 dangers et il en court 1000 autres encore. Mais le plus redoutable de tous les dangers, c'est que toi, son fils, tu l'oublies. » Télémaque baisse la tête, des larmes dans les yeux. Cette fois-ci, Mentor a été assez convaincant pour sauver la mémoire d'Ulysse, mais jusqu'à quand ? C'est le visage d'un enfant souriant qui ce jour-là sauve Ulysse et ses compagnons. Au moment où Ulysse s'apprête à croquer dans les magnifiques fruits de l'oubli au goût de miel, son regard s'arrête sur l'enfant qui lui tend la corbeille. C'est un garçon d'une douzaine d'années au sourire éclatant. Un instant, un autre visage surgit devant les yeux d'Ulysse, celui d'un petit garçon du même âge, aux cheveux bouclés retombant sur de grands yeux bleus. Est-ce celui de Télémaque, son fils, dont il ne connaît que le visage de bébé ? Mais ce regard-là ne sourit pas. Il est plein d'un muet reproche. Ce regard-là lui dit « Tu t'apprêtes à m'oublier, à m'abandonner. » Pris de vertige, Ulysse renverse d'un geste brusque la corbeille de fruits dorés et crie d'une voix forte. « Ça suffit maintenant ! Rentrons au navire !» Et malgré les supplications des trois marins ayant mangé les lotos, il les entraîne de force vers les bateaux. La sueur perle à son front. Il a failli succomber à la tentation de l'oubli et détruire toutes ses chances de retrouver les siens. Le soulagement des hommes restés à bord est grand de les voir revenir. Ils reprennent en hâte le chemin du retour. Peu de temps après, au cours d'une nuit très noire, alors que les bateaux naviguent dans un épais brouillard, ils abordent par surprise une terre inconnue. « Je n'aime pas quand Sélénée, la lune ne se lève pas !» marmonne un marin. « Cette terre est peut-être pleine de monstres. Nous n'y voyons rien. » Nous n'avons plus rien à manger, il nous faut bien trouver du ravitaillement, lui répond fataliste un autre marin. Mais lorsque le jour se lève, leurs craintes disparaissent devant la beauté du paysage. Vallons moussus, ruisseaux ombragés, forêts regorgeant de gibier. Chacun part en quête de nourriture et c'est un vrai festin qui s'organise. Les animaux rôtis à la broche, les poissons pêchés dans les ruisseaux, les fruits cueillis sur les arbres. Chacun se régale et se réjouit. Leur belle Ithaque est plus caillouteuse, plus rude aussi. Ulysse, le cœur joyeux et apaisé, est curieux devant cette terre si belle et si généreuse. Qui peut bien vivre ici ? Oh, sûrement pas des cultivateurs, car aucun champ n'est visible aux alentours. Les habitants sont-ils accueillants ou cruels ? Craignent-ils les dieux comme eux ? Sont-ils comme eux des hommes mangeurs de pain ? Ulysse veut en avoir le cœur net. Il choisit 12 de ses hommes, les plus courageux, et part explorer l'île. Il a aperçu une grande caverne qui domine la mer. au milieu d'une pente très raide couverte de pins. Au sommet, juste au-dessus de la grotte, on peut voir une plaine verte dans laquelle broutent brebis, chèvres et agneaux. Ulysse se demande à quoi peut bien ressembler le berger qui vit ici. L'escalade est rapide et bientôt il pénètre dans la vaste grotte qui sert de bergerie. De gros fromages s'y empilent et un feu brûle au centre. Des litières de paille attendent les bêtes qui, le soir, doivent venir y dormir à l'abri du vent et de la pluie. Le long d'une paroi, une gigantesque massue en bois est posée. À sa vue, les compagnons d'Ulysse prennent peur. « Celui qui peut manier une massue de cette taille est un géant ! Partons, Ulysse ! Prenons quelques fromages, du lait, et fuyons avant que le propriétaire de cet endroit ne rentre !» Mais Ulysse est dévoré de curiosité. Il n'est pas pressé de redescendre, car il veut rencontrer ce géant. Profitons de ce feu qui brûle au centre de la grotte pour faire rôtir quelques agneaux en attendant, dit-il. Ils n'ont pas à attendre longtemps, car bientôt des bruits sourds ébranlent la roche. Un troupeau de moutons fait irruption en bêlant dans la grotte avec, à sa tête, un splendide bélier aux cornes recourbées. Mais le boum, boum, boum se rapproche. Les hommes d'Ulysse ont beau être courageux, ils pâlissent d'effroi lorsque la silhouette de celui dont les pas fait trembler ainsi la grotte apparaît à l'entrée. Le géant occupe tout l'encadrement de l'entrée de la caverne. Il a des mains immenses, des bras gigantesques, mais surtout son visage horrible ne porte qu'un œil unique sur le front, comme le cratère d'un volcan. C'est un cyclope. À peine a-t-il franchi le seuil de la caverne qu'il saisit une énorme pierre, la fait rouler aussi facilement que s'il s'agissait d'un fétu de paille, et s'en sert pour bloquer l'entrée comme une porte. Une centaine d'hommes ne suffirait pas pour déplacer ce rocher. Ulysse maudit la curiosité qui l'a conduit ici. Ces hommes et lui sont bel et bien piégés, prisonniers du cyclope dans sa grotte. Comment vont-ils pouvoir s'en sortir ? Le monstrueux cyclope, tout occupé à traire ses bêtes, n'a pas encore aperçu Ulysse et ses hommes. Eux se font tout petits, tremblant de peur. Lorsqu'il les découvre, le cyclope se gratte la tête. « Mais qui donc êtes-vous ? Des pirates ? Des bandits venus de la mer ?» Comme sa voix est effrayante, elle résonne sur les parois de la caverne. « Nous sommes des soldats de retour de la guerre de Troie, » répond Ulysse. « Les dieux nous ont conduits, par hasard, jusque chez toi. Offre-nous l'hospitalité. » Le cyclope part d'un rire tonitruant. Le foudre de Zeus s'abattant dans la caverne n'aurait pas fait plus de vacarme. « Je suis le cyclope Polyphème, et je ne crains pas les dieux. Mon père est Poséidon, le dieu de la mer, mais je suis plus fort que tous les dieux réunis. Je suis au-dessus de l'Olympe. Les lois de l'hospitalité dont tu parles ne sont pas les miennes. » Et tout en continuant à rire, le cyclope attrape deux des marins, leur brise le crâne et les dévore. Ulysse est glacé d'horreur. Polyphème, une fois son repas terminé, va se coucher sans plus se préoccuper de ses visiteurs. Bientôt, ses ronflements envahissent la grotte. Pris de rage, Ulysse s'approche du monstre endormi, l'épée levée. Il s'apprête à lui trancher la gorge quand quelque chose retient son bras. « Ulysse !» chuchote une voix familière. « Ne fais pas cela, malheureux !» Jamais vous ne pourrez pousser cette lourde pierre qui bloque l'entrée de la caverne. Si tu le tues, vous êtes condamné à mourir ici. » Ulysse a reconnu la sagesse d'Oumariaka. Il laisse retomber son bras en soupirant. Cette nuit-là, pas un des Grecs ne peut fermer l'œil. Certains maudissent la folle curiosité d'Ulysse, d'autres supplient les dieux de venir à leur secours. Ulysse, lui, scrute la nuit. Il espère trouver une idée pour sortir de ce cauchemar. Au matin, le monstrueux cyclope se lève et sans plus attendre, il attrape deux autres hommes et les dévorent eux aussi tout crus. Puis rassasiés, ils se mettent à traire ces bêtes avant de les emmener dehors se nourrir d'herbes vertes. Hélas, en partant, ils referment l'entrée de la caverne avec la grosse pierre comme un couvercle sur une marmite. Ulysse tourne en rond dans la grotte. Il se cogne aux parois sans même s'en apercevoir. Soudain, son pied heurte la gigantesque massue en bois d'olivier que le cyclope n'a pas emportée avec lui. Ça y est, il a une idée. Vite, il appelle ses compagnons à l'aide. Tous ensemble, ils se saisissent du gourdin et commencent à le tailler comme un javelot. La massue est aussi haute que le mât d'un navire, et le travail est difficile. Mais les marins sont habités par l'énergie du désespoir. Lorsque la massue est bien taillée, Ulysse plonge la pointe acérée dans le feu qui brûle toujours au centre de la caverne. Ainsi, la pointe durcie est comme du métal. Puis, il dissimule le gourdin transformé en épieu sous les litières de paille. Il était temps. Le lourd « boum, boum, boum » qui résonne annonce le retour du maître de la caverne. Polyphème fait entrer son troupeau dans la grotte, puis referme soigneusement l'accès. Il se dirige vers ses prisonniers, en saisit de nouveau entre le pouce et l'index. Eux aussi sont engloutis tout crus par le cyclope. C'est le moment qu'Ulysse choisit pour s'adresser à lui. J'ai vu en arrivant que tu avais des vignes. Sais-tu que nous, les Grecs, nous produisons un breuvage délicieux à partir des raisins de ces vignes ? À nouveau, Polyphème se gratte la tête. C'est bien le signe caractéristique de son étonnement. Un instant, Ulysse devine en lui autre chose que ce monstre mangeur d'hommes. S'il ne se régalait pas de chair humaine, le cyclope aurait pu être un brave berger borgne vivant seul dans ses montagnes, avec pour unique compagnie ses troupeaux, le soleil et le vent. Un être primitif mais libre, loin de la civilisation, suivant ses propres lois et son bon plaisir. Mais il ne se contente pas de refuser l'hospitalité à des étrangers de passage, il les dévore. Ulysse chasse ses pensées et poursuit son plan. « Si tu veux goûter à ce breuvage délicieux, tiens !» J'en ai apporté dans cette outre. Et il tend à Polyphème un peu du vin qu'il a ramené de chez les Cicones. Le cyclope le boit goulûment et en redemande aussitôt, en promettant à Ulysse « Oh, resserre-moi encore et je te ferai un cadeau !» Ulysse lui sert du vin encore et encore. Le cyclope, qui n'en a jamais bu de sa vie, est vite gagné par l'ivresse.
« Comment t'appelles-tu, gentil barbu ?»
bredouille-t-il d'une voix pâteuse. « Mon nom est Personne, » répond Ulysse. « C'est ainsi que mon père et ma mère m'ont nommé. Personne. » En prononçant ces mots, le roi d'Ithaque sent un frisson lui parcourir le dos. Et si réellement sa longue épopée, loin des siens, l'avait fait oublier de tous, et si réellement il n'était plus personne.
« Eh bien, mon cher Personne, voici mon cadeau pour te remercier du tien, »
dit aimablement Polyphème.
« Je vais te dévorer le dernier. »